Bonjour, bienvenue avec nous Stéphane Boudon pour notre rendez-vous politique du lundi matin.
Bonjour.
Alors nous allons évidemment parler un petit peu ensemble de l'allocution du président de la République, M. Macron, jeudi dernier, et des mesures qu'il a proposées. Mais avant de rentrer dans le détail de ces mesures, Stéphane Beaumont, est-ce qu'on peut parler d'un Macron 2 ? On a eu longtemps cette caricature du monde, de Plantu dans le monde, du temps du deuxième septennat de Chirac, avec ce Chirac 2, le petit panneau 2 là, qui est flotté au-dessus de sa tête. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui on rentre dans une deuxième étape de la présidence de Macron ?
J'ai l'impression qu'on y rentre peut-être malgré lui. Il n'est peut-être pas tenté de l'affirmer, mais les mesures qu'il a annoncées, la manière dont il l'a fait, la forme qu'il a adoptée, sont autant d'éléments qui nous permettent de dire qu'aujourd'hui on est passé de Macron 1 à Macron 2. Le reste étant de savoir si la forme l'emporte sur le fond et si la forme qu'il a adoptée présage du fond dont nous allons parler.
Oui, est-ce qu'il s'agit d'un changement de stratégie de... Il est bien entouré, il a une super équipe de com, donc est-ce que ses conseils en communication...
Qui a changé pas mal.
Qui a d'ailleurs effectivement pas mal changé ces derniers temps, il y a beaucoup de ses fidèles qui sont partis, mais voilà, justement, est-ce qu'à à l'occasion de l'arrivée de cette nouvelle personne, est-ce qu'il a un changement profond de sa communication, ou est-ce que c'est l'homme qui a été touché par ces derniers mois, par toutes les rencontres qu'il a faites, par tous les débats qu'il a animés, et fondamentalement, il a véritablement opéré un changement? Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que l'homme qui était sur les tréteaux à travers toute la France et qui aime cette rhétorique argumentative devant les élus ou devant les associations n'a pas véritablement changé, mais il essaye de trouver un rythme, il essaye de trouver une présence, il essaye de trouver une importance qui le fait s'éloigner de la critique jupitérienne.
D'accord, autrement dit, il est descendu de son piédestal.
Oui, mais la Ve République est faite de telle manière que depuis le général de Gaulle, on n'imagine pas le président sans piédestal. On n'imagine pas le président qui ne soit pas un minimum Jupiter. On n'imagine pas le président qui soit sous la coupe du Premier ministre. Donc, on donne des gages comme ça aux journalistes pour qu'ils puissent nous donner l'illusion d'un changement. Mais la Ve République reste la Ve République. Il faudrait passer à la sixième pour que nous puissions parler de république parlementaire. Voilà, ça c'est...
Oui, on connaît l'expérience de François Hollande qui a tenté de descendre de son piédestal. C'est vrai que ça n'a pas très bien marché, de ce point de vue-là.
Ça a tellement peu marché. Un président n'est pas un journaliste, un président n'est pas un chroniqueur. Et un président candidat n'abdique pas. Car François Hollande est le premier président de la Ve République, le premier monarque républicain à avoir abdiqué.
En quelque
sorte. Et l'abdication, on sait ce que c'est dans l'histoire de France.
Alors si on revient au président Macron, est-ce que là on le voit lancer un catalogue de mesures qui est quand même assez impressionnant, et puis ensuite il dit, bon ben voilà, cher Édouard Philippe, maintenant c'est à toi, et effectivement commence aujourd'hui un séminaire gouvernemental de mise en musique de ces mesures. Est-ce que là aussi c'est un rapport normal entre le président et le Premier ministre?
Oui, vous avez raison de souligner qu'il y a un catalogue de mesures qui est tout à fait impressionnant et qui me donnait l'impression que le Premier ministre ou le ministre d'État qui les présentait avait vu auparavant le président, mais que ce n'était pas le président qui les présentait. Donc la forme là entraîne le fond. Il est très rare que dans une allocution présidentielle, en l'occurrence une conférence de presse, le catalogue soit aussi fourni, le catalogue soit aussi riche. Et on a compris pourquoi il pouvait être à ce point riche, c'est que celui qui en est chargé de l'application, c'est le Premier ministre qui semblait par moments découvrir des pistes sur lesquelles il n'était pas encore engagé.
Là, vous mettez un peu dans sa tête, là, à sa place. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Le grattement de sa barbe, laissant un espace blanc sur la joue gauche, et ensuite... quelques sourires qui, entre technocrates, veulent dire quelque chose.
D'accord.
Une complicité condamnée à la complicité.
Condamnée à la complicité, ou au départ. Mais en l'occurrence, il choisit la complicité.
En l'occurrence, c'est la complicité. Il n'a pas le choix. L'article 20 de la Constitution dit que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.
Détermine, là, c'est moyen, oui.
Détermine et conduit la politique de la nation. C'est le président de la République.
Oui, oui.
Alors là, le Premier ministre reprend la place qu'il a toujours eue sous la Ve République, en étant peut-être un peu plus qu'un chef de cabinet, mais un peu moins qu'un dirigeant véritablement politique.
Parce que c'est vrai que les mesures étant tellement explicites et détaillées, la marge de manœuvre de l'interprétation ou de la mise en place est ridicule, en fait.
Absolument, vous avez tout à fait raison de le souligner. On a d'ailleurs les chroniqueurs, les journalistes, les interprètes de la chose politique ont eu du mal à retenir, à classer toutes ces mesures, tellement c'est un effet cascade.
Oui.
Un effet cascade qui pâtit de la communication autour de ces mesures, dans la mesure où ceux qui ne sont pas habitués à la politique, même ceux qui sont habitués, sont incapables de répéter le tiers de ces mesures.
Oui, mais il a fallu qu'on les imprime d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y en a quelques-unes quand même qui sont marquantes et qui visent à marquer l'esprit. Par exemple, la création des Maisons France.
Oui, alors ça c'est une... Ça s'appellera une Maison France Service,
oui,
dans chaque canton.
Oui.
C'est d'abord la renaissance de la France cantonale.
Oui.
C'est la renaissance du Québec dans la France cantonale, puisque c'est une expérience canadienne, québécoise. Et c'est finalement une nouvelle déclinaison de la démocratie de proximité. Il y a moins de démocratie directe dans les propositions de Macron que de tentatives de réalisation de la démocratie de proximité.
Ce qui n'est pas mauvais en soi.
Ce qui n'est pas mauvais en soi, il n'est pas mauvais que cette Maison France Service, installée dans chaque canton, rassemble, tous les services de l'État,
oui,
Pôle emploi,
oui,
antenne préfectorale et les opérateurs,
oui,
électricité, eau, téléphonie.
C'est une vraie demande, c'est une grande demande en tout cas qui a émergé, qui venait beaucoup pour le coup des Gilets jaunes.
C'est une grande demande, il y avait une demande de démocratie directe non satisfaite.
Oui, avec le référendum d'initiative citoyenne qui là est totalement balayé pour le coup. Il y a un petit aménagement du dispositif actuel, la baisse du seuil à 1 million de personnes pour obtenir un référendum, mais c'est une mesurette là pour le coup.
Nous ne sommes pas en Suisse.
Oui. Voilà,
démocratie,
on est pas en Suisse. Voilà.
Démocratie délibérative par le biais de la démocratie parlementaire, mais démocratie directe non admise, l'expérience de 1793 n'ayant pas laissé de très bons souvenirs, regardez du côté de Monsieur Guillotin.
Oui, d'accord. Installer place de grève. D'autres mesures, deux gestes assez forts tout de même en direction des retraités. Qu'on peut peut-être commenter rapidement. Donc là, c'est véritablement très concret, hein, pour les retraités.
La création d'un minimum contributif pour les retraités, l'argent dégagé par l'allongement de la durée de cotisation doit permettre la création de ce qu'on appelle un minimum contributif. Emmanuel Macron a souhaité que la retraite minimale pour une carrière complète soit portée à 1 000 euros, un montant selon lui significativement supérieur au minimum vieillesse, qu'il a promis d'ailleurs de relever à 900 euros l'an prochain.
Et puis donc l'indexation des petites retraites sur l'inflation, ça aussi c'est un deuxième geste que c'est important.
Ça c'est très important, vous avez
raison. Donc il y a quand même deux gestes majeurs en direction des petites retraites, des personnes ayant qui souffrent effectivement de la perte de pouvoir d'achat parce que leur retraite n'augmente pas au même temps que le coût de la vie. Donc ce sont des gestes qui sont tout de même... vraiment important.
Oui, le président a déclaré qu'au 1er juin, janvier prochain, il souhaitait que nous surindexions sur l'inflation,
oui,
les retraites de moins de 2 000 euros et qu'il n'y ait plus de sous-indexation,
oui,
pour quelques retraites que ce soit à partir de 2021.
Ça fait une série de prononciations redoutables. Vous vous êtes lancé un défi, là, Stéphane Beaumont, prononcer ces mots-là.
C'est difficile. Et en plus, quand on regarde un peu l'histoire de Macron avec l'indexation,
oui,
on a l'impression qu'il est revenu sur des mesures qu'il avait annoncées.
Comme ?
Mais justement, ces histoires d'indexation et de sous-indexation, on avait l'impression qu'on était sur des plans fixes et que ça n'allait pas bouger. Et là, le politique, les gilets jaunes font bouger ces retraites. Reste à savoir quand ça va être appliqué, comment ça va être appliqué.
Et effectivement, il y a le sujet du calendrier, vous avez raison de le pointer. Il y a quand même pas mal de lois dont on attend certains avec impatience, d'autres avec beaucoup moins d'impatience, qu'elles apparaissent au Parlement, comme par exemple la révision des lois bioéthiques. Est-ce que le fait que le gouvernement se mette à marche forcée pour appliquer ces mesures, est-ce que ça ne va pas reporter au calendrier grec ces discussions au Parlement?
Mais je trouve ça Très intéressant que vous mélangiez les calendes grecques avec la bioéthique. C'est une déclinaison du temps qui est originale, surtout à Radio Présence, où on peut ajouter l'éternité.
N'est-ce pas?
Moi, je reste inquiet sur l'inflation législative. Trop de lois tuent la loi. Et oui. Trop de lois empêchent l'application des décrets. Et trop de lois empêchent l'assimilation par l'électorat de l'importance de certaines d'entre elles.
Et pourtant, là, quand on voit ce catalogue qu'on a à peine parcouru, là, on n'a pas dit la moitié, tout ça, ça va devoir passer au Parlement. Donc ça va devoir être ensuite transformé en une loi votée, et puis un règlement, etc. etc. Donc là, la machine
et
se met en route.
Et puis des amendements. Qu'est-ce qui restera des espoirs présidentiels, de la volonté présidentielle? Et qu'est-ce qui restera des manifestations concernant ces projets de loi ou ces propositions de loi, je ne le sais pas, mais c'est toujours dangereux d'éviter l'effet accordéon.
Ben, l'avenir nous le dira, vous reviendrez à ce micro pour continuer à le
avec
commenter.
Avec plaisir, avec plaisir.
Merci beaucoup Stéphane pour ce matin et à la semaine prochaine.